Bonjour, je suis Camille Deslauriers. Bienvenue à l'émission Sous l'influence des livres, le volet Rimouskois de Parking Nomade, enregistré à l'Université du Québec à Rimouski. Ce mois-ci, à l'émission, dans un premier temps, nous recevons M. Sébastien Chabot, romancier, qui est aussi chargé de cours au module des lettres de l'UQAR et doctorant en lettres, profil création littéraire à l'UQAR. Aujourd'hui, il vient nous parler de son dernier roman, L'Empereur en culotte courte, paru aux éditions Trois Pistoles en 2013. Dans un deuxième temps, on va enchaîner avec une capsule d'histoire littéraire. Monsieur Claude Lacharité viendra nous parler du bas du fleuve, berceau de la littérature québécoise. Dans un troisième temps, nous allons reparler avec Sébastien Chabot et suivant notre tradition et aussi pour rester fidèle à ce qu'indique le titre de notre émission, nous allons aborder ses lectures phares, son rapport à la lecture et l'influence de certains livres ou certains auteurs marquants dans sa démarche d'écrivain. En fin d'émission, nous aurons le plaisir d'entendre un extrait du roman « L'Empereur en culotte courte » et nous aurons l'honneur d'entendre l'auteur lui-même nous le lire. Alors, nous accueillons aujourd'hui à l'émission M. Sébastien Chabot. Bonjour Sébastien, bienvenue à l'émission.
Bonjour.
D'abord Sébastien, j'aimerais qu'on parle un peu de votre rapport au territoire, hein, parce que je pense que c'est très important dans votre démarche. L'histoire de votre roman se passe dans le bas du fleuve, dans le village à vocation forestière de Sainte-Florence, dans la vallée de la Matapédia, un village qui existe vraiment. Au départ, donc, vous semblez vous inspirer d'un territoire réel, mais certains lieux du roman portent des noms pour le moins singuliers, voire symboliques, voire mythiques. Alors, pour représenter les lieux du roman, des lieux qui semblent de prime abord à peu près réaliste, hein? Je pense à la taverne du Vieil Hiver, à l'usine Barabas Incorporated, à l'école Beau Rivage construite sur un marécage. Mais ce sont des lieux qui deviennent rapidement caricaturaux ou mythiques en cours de roman. Hein? Par exemple, le labyrinthe et les portes de l'enfer de la Ziggoura de Croûte à l'usine Barabas. Hein? Donc, est-ce que vous êtes inspiré de lieux qui existent et la fiction a fait le reste ou vous avez inventé ces espaces-là qui sont dans un village réel de toutes pièces?
Bien, en fait, c'est un mélange des deux. Il y a des lieux qui existent vraiment, dont la Barabas Incorporated, c'était une usine de siège qui s'appelait la Bérubée, en fait, qui était tenue par une famille qui s'appelait les Bérubées. Puis on disait, évidemment, c'était des gens qui avaient beaucoup d'argent, c'était des industriels. Alors, il était connu comme Barabas dans le passé, d'où l'idée. Et ce lieu-là, ben, l'usine Barabas, qui prend beaucoup de place dans mon roman aussi. Oui. Bon, justement, c'est très, je voulais faire quelque chose de mythique avec ça. Le côté industriel, ça devient presque une machine à dévorer, en fait, la nature.
Oui, tout à fait, hein, parce qu'il y a des passages qui évoquent des monstres qui sont métalliques, mais des monstres quand même.
Absolument, puis, il y avait vraiment cette idée de... Donc, l'inspiration vient de là, parce que quand j'étais étudiant, jadis, au secondaire, même au cégep aussi, je travaillais l'été dans cette usine-là, l'usine la Bérubée, puis j'étais toujours été impressionné, en fait, par... les grosses machines qui circulaient, ça me donnait l'impression, d'ailleurs j'en parle dans le livre, comme une espèce de balai de dinosaures mécaniques. Alors oui, il y a beaucoup de choses, je dirais, à inspirer de la réalité. L'usine, là je parlais de l'usine, mais il y a l'école aussi, l'école Beau Rivage. Oui. C'est une école que j'ai fréquentée, qui n'était pas bâtie sur un marais, mais disons que j'ai un souvenir plutôt... qui me donne l'impression. Mais en fait, c'est ça, on voit le travail de l'écriture, comment ça fonctionne. En fait, je m'inspire de mes souvenirs, puis je les mythifie, si je puis me permettre. Alors il y a un mélange, effectivement, de réalité et de fiction. Et par ailleurs aussi, pour atteindre, parce qu'il y a beaucoup de caricatures dans mon livre aussi, et pour atteindre une certaine crédibilité, hein, quand on caricature, il faut s'inspirer évidemment de quelque chose de réel. Ouais. Alors, il y a les hommes politiques aussi qui sont caricaturés là-dedans. Bon, il y a les journalistes.
Oui. On en reparlera tantôt dans la troisième question. Vos histoires, hein, ce sont des histoires qui sont abracadabrantes, mais qui sont jubilantes, hein, se déroulent à Sainte-Florence. Et elles aussi, les histoires qui sont racontées, prennent rapidement des allures légendaires. Hein, et ça, le narrateur qui raconte l'histoire vient nous souligner cette caractéristiques-là, je dirais, à grands traits, parce que votre narrateur, c'est véritablement une mise en abîme de l'auteur, hein, qui va aller d'une part jusqu'à citer ses sources en notes de bas de page, jusqu'à indiquer des variantes de ces histoires-là qui circulent. Hein. Et d'autre part, on en vient à faire de la vallée de la Matapédia un territoire mythique, quand ça va avec ce que vous me disiez précédemment. Un territoire mythique qui est ancré dans la vie contemporaine, parce que les médias sont omniprésents, les Matapédiennes rêvent d'aller magasiner à Québec aux galeries de la capitale, ou mieux à Brossard au 10-30. Donc, on a une vie mythique ancrée dans une vie contemporaine qui est à la fois fascinante et étrange, parce que le mythique prend le dessus et les catastrophes vont se succéder. Et il y a l'ombre d'une lignée maudite, hein, les Sebastiansen, qui plane et qui semble encore attirer la fatalité sur le village de Sainte-Florence et plus particulièrement sur la destinée du personnage principal, le petit Malik Beauchemin. Donc, encore là, est-ce que vous êtes inspiré de légendes locales que vous avez revisitées, exagérées, caricaturées, ironisées, ou si vous avez carrément inventé des légendes de votre cru? Parce qu'après tout, un jour, le souligner, la lignée maudite s'inspire dangereusement de votre prénom.
Oui, oui, c'est ça. C'était drôle aussi. Derrière cette allusion comique à mon prénom, mm-hmm. Il y avait la volonté d'inscrire la vallée de la Matapédia, puis ça va répondre à votre question par rapport aux mythes et aux légendes. Je voulais faire de la vallée de la Matapédia un peu ce que Matt Groening arrive à faire avec son Springfield, mm-hmm. dans Les Simpsons. Okay. C'est que ça devient, en fait, la vallée de la Matapédia devient le centre du monde.
Oui, tout à fait.
Alors, en intégrant les Sebastiansen, cette légende des Sebastiansen qui est inventée de toutes pièces, mm-hmm. Simplement, peut-être dire un peu qu'est-ce que c'est la légende vos auditeurs, c'est simplement qu'il y aurait des Vikings qui seraient descendus dans la vallée de la Matapédia, mm-hmm. parce qu'on sait qu'ils ont été à Lens au Meadows, mm-hmm. à Terre-Neuve. Mais moi, j'ai fait descendre, ça, c'est la partie qu'on appelle le Vinland, là, c'est okay. dans les mythologies scandinaves. Et là, il serait descendu. Moi, je l'ai fait descendre jusque dans la vallée de la Matapédia, où il rencontre des Micmacs. Mm-hmm. Et là, je raconte, ça, c'est une légende inventée aussi, qu'à Sainte-Florence même, il y aurait eu, comme les hommes de Leif Erikson seraient demeurés sur le site de Sainte-Florence, mm-hmm. avec des femmes Micmacs. Mm-hmm. Et en fait, les premiers Matapédiens seraient un mélange de Vikings et de Micmacs.
D'accord.
Fait que là, on est vraiment dans une mythologie ouais. très virile aussi, ouais, j'ose ouais, le oui. dire aussi, parce qu'il y a un côté très guerrier dans le livre en Malik. Ouais. Et bon. Alors, je voulais vraiment intégrer tout ça dans L'Empereur en culotte courte, parce que c'est peut-être prétentieux, mais j'aimerais ça que quand... que j'insiste là-dessus sur le Springfield de Matt Groening, mm-hmm. c'est ce que je voulais faire aussi, que la vallée de Matapédia devienne quelque chose de... comment dirais-je, d'incontournable, que ça devienne le centre du monde.
Ouais.
Et en même temps, c'est un peu militant, hein, parce que on parle souvent de mes livres comme s'ils se passaient dans des régions éloignées qui n'ont rien à voir avec le Québec plutôt urbain, plus
non,
branché
hein.
sur l'Occident. Moi, je suis c'est militant aussi, parce ouais. que je prends position. Non, Sainte-Florence, mon village natal, fait partie du monde
ouais.
et devient le centre
du
monde.
Oui.
Alors, c'est ça que
comme
je
dans toute mythologie, on a un lieu d'où tout part, dans le fond.
Absolument.
Hein,
absolument.
Alors, c'est vraiment fascinant. J'aimerais aussi, en dernier lieu, qu'on aborde l'aspect critique de votre œuvre. Hein. Là aussi, vous m'en avez glissé un mot, mais tout au long du roman, à travers le personnage de journaliste de Dumont, hein, on sent que vous critiquez beaucoup les médias, entre autres, mais aussi le milieu hospitalier, le capitalisme, la déforestation des régions. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cette posture-là?
Deux choses. D'abord, ça vient d'un certain énervement. On raconte toujours que le Québec, il y a une certaine droite, il y a une certaine position politique aussi, pourquoi ne pas la nommer, je dirais plus fédéraliste, mm-hmm. Qui présente souvent le Québec comme un trou, comme le Rwanda. Mm-hmm. Bon, alors ça aussi c'est un peu militant parce que lorsque j'écris en quatrième de couverture de mon livre que j'habite au Canada à contre-cœur, il y a
ouais.
deux faits là-dedans,
ouais.
j'habite dans la ville de contre-cœur et bon. Alors je ne m'étends pas là-dessus, mais ça vient aussi de ça. Il y avait cette volonté... de faire un peu, parce que j'hésite à en parler, mais les films Elvis Gratton, il y avait une posture critique que je trouvais mal faite.
Mm.
Si je puis me permettre, c'était grossier, c'était
ouais.
vulgaire. Alors moi, j'ai essayé d'aller vraiment dans le raffinement,
ouais.
d'aller faire des caricatures, parce que... Alors, Ça, d'une part, il y a ça. Il y a cette volonté vraiment de remettre les pendules à l'heure, si mm-hmm. je puis me permettre, de mon point de vue. Présenter une option politique qui est valable, ouais. l'indépendantisme, pourquoi ouais, pas. Ouais. Et ça vient aussi de mes influences. On va en parler dans un autre volet, mais mes influences, je veux dire, les écrivains qui m'ont marqué. Mm. On pense à Victor Lévy-Beaulieu, on connaît sa couleur politique. Évidemment, Hubert Aquin aussi, oui. qui est toujours présent, ses écritures.
Oui, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais votre livre est truffé d'intertextes aussi. Hein? Donc, pas « coule en flamme », mais la phrase « coule en flamme » revient quelque part dans votre livre. Là, puis je m'étais dit « Ah, voilà, OK!
» Oui, il y en a plein, oui, c'est vrai. Ouais.
Bon, ben alors, merci. Merci, Sébastien, d'avoir répondu à mes questions sur votre démarche créatrice et votre roman « L'empereur en culotte courte ». Là, on a mal fini ça.
Ben, il y a eu un mini malaise.
Ouais, OK. Ouais.
Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir répondu à mes questions sur votre démarche créatrice et sur votre roman « L'empereur en culotte courte ».
Nous sommes de retour avec Sébastien Chabot pour le troisième segment de notre émission. Sébastien, si vous deviez identifier les auteurs marquants qui ont joué un grand rôle dans votre parcours de lecteur ou d'écrivain, hormis peut-être Aquin et Victor Lévy-Beaulieu dont vous nous avez parlé tantôt, quels sont les noms qui vous viendraient à l'esprit?
Je dirais beaucoup pour ce roman-là particulièrement, mais c'est un livre qui m'habite encore. C'est Le Seigneur des Porcheries de Tristan Egolf, qui est un auteur américain, malheureusement, qui s'est suicidé à l'âge de 34 ans, là, mais... Il avait écrit un livre, c'est ça, donc « Le Seigneur des Porcheries », ça raconte l'histoire d'un enfant génial qui vit dans le Midwest américain et il se bat beaucoup contre la société, en fait. Puis là, on voit vraiment là, l'influence majeure, elle est là. Il y a aussi Göran Tunström, qui est un auteur suédois que j'adore, que j'aime beaucoup parce que Göran Tunström fait ce que je tente de faire, bien modestement. C'est que sa région natale, le Värmland, qui se trouve être une région de la Suède, là, à la frontière de la Norvège, puis bon, il y a le lac Fricken aussi, il parle beaucoup de ça. Ben c'est ça, tous ses livres se passent dans son village natal, qui s'appelle Sunne. Et c'est ça, donc, on voit vraiment là, cette idée, cette volonté d'incarner le territoire. Puis depuis le début, je fais ça, on parle de l'empereur en culotte courte, mais... On pourrait revenir avec mon précédent roman qui s'appelait « Le chant des mouches », qui parle aussi de Sainte-Florence. Mais dans ce roman-là, « Le chant des mouches », j'avais changé les noms. J'ai regretté parce que, bon, Sainte-Florence devenait Sainte-Souffrance. C'était rigolo, mais puis nous, on appelait notre ville comme ça, notre village comme ça, Sainte-Souffrance. Mais non, c'est ça, donc. Fait que c'est vraiment, là, ces auteurs-là ont été très importants. Mais vous voulez pas que je parle d'Hubert Aquin, mais j'aurais pas le choix. Parce que Hubert Aquin, avec Neige Noire, a été une influence vraiment majeure. Ce livre-là, particulièrement, Neige Noire, juste pour rappeler, c'est que ça se passe aussi une partie en Norvège, une partie à Montréal. Bon, alors, l'influence scandinave, là, que j'aime beaucoup, bon, ça vient aussi de là.
Parce que tous les mois, je suis un petit peu curieuse et je veux mieux connaître mes invités en tant que lecteur. Dans tous les sens du terme, quelles seraient les œuvres ou les livres qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans la bibliothèque de Sébastien Chabot?
Bien, ça va peut-être vous paraître curieux. C'est des bons livres quand même, là. Moi, je les adore, ça m'habite beaucoup. C'est les livres de Georges Bernanos, qui est un écrivain... je dirais chrétien, mais qu'on présente peu, que moi j'ai lu parce que j'ai un de mes amis bon, qui me les a prêtés. Plus particulièrement, Sous le soleil de Satan, qui a été un livre majeur pour moi. Et il y a une influence de Sous le soleil de Satan dans L'empereur en culotte courte.
D'accord. Enfin, comme dernière question, peut-être rapidement parce qu'il nous reste peu de temps, vous enseignez la création littéraire ici à l'UQAM. De votre point de vue, quelle est l'importance de la lecture dans le parcours de formation d'un écrivain de la relève qui veut écrire du roman?
En fait, moi, c'est la lecture est fondamentale parce que je fais beaucoup l'écriture. En fait, tous mes livres sont partis de pastiches. D'accord. Alors, je pars des livres que j'aime beaucoup, puis j'ai pastiches. Puis après ça, ce que je fais, c'est que j'essaie d'effacer les traces de mon forfait, comme je dis. En justement réécrivant. Fait que là, j'enlève les influences au fond. Alors, puis mon atelier de création est basé presque essentiellement là-dessus parce que je trouve que c'est une naïveté souvent que les jeunes auteurs ont de partir... Ouais, exact. Alors moi, je pars tout de suite en cassant ce mythe-là pour revenir au mythe.
Merci beaucoup. Alors maintenant, Sébastien Chabot nous lire un extrait de son roman « L'empereur en culotte courte ».
Alors, je vais vous lire un extrait d'un chapitre qui s'intitule « Travaux communautaires ». C'est un chapitre qui raconte, en fait, l'arrivée de Malik dans un programme de réinsertion sociale parce qu'il était renvoyé de l'école Beau Rivage. Alors, je vous lis l'extrait. Le site Internet consacré au programme de réinsertion sociale « Il n'y a pas de saut métier » faisait la promotion active des joies du travail tout en distillant en filigrane des informations sur les nombreux dangers de la drogue. De pompeux objectifs de revalorisation de soi à travers la découverte de la responsabilisation graduelle et de la prise en charge d'habitudes de vie saines se déployaient entre des sourires commandités qui donnaient l'impression que les Amérindiens avaient reconquis le Canada, tant ils étaient nombreux sur les différentes pages du site. Dès qu'un onglet était activé, une publicité de l'armée montrait que l'infanterie était un jeu vidéo grandeur nature où les risques d'être game over étaient soigneusement écartés. Le tout se présentait comme une initiative gouvernementale dénuée de la moindre partisanerie qui voulait favoriser la participation active de tous les citoyens au grand concert bilingue qui se déployait d'un océan à l'autre. Il fallait être sacrément tordu pour y voir quelque chose de mauvais. Parce que Malik avait promis à sa mère de bien se comporter, il passa la première année de sa formation dans une sorte de transe où il bouillonna en lui-même, tandis que les après-midi s'éternisaient dans toutes les horloges du centre où se déroulait la formation. Les ateliers de lecture au doigt et autres cours d'expression des émotions firent dégoûter mollement les heures sur le plancher. À quelques reprises, Malik s'endormit sur son bureau dans une mare de bave, au grand plaisir du responsable qui préférait, et de loin, répandre son savoir sur des enfants somnolents plutôt que turbulents.
Merci beaucoup à notre écrivain invité, Sébastien Chabot. J'aimerais également remercier mes collaborateurs, qui sont parfois aussi mes co-animateurs, Claude Lacharité, Martin Robitaille et Catherine Gosselin. Merci également à Jean-Luc Desberges à la technique. Je vous rappelle que l'émission « Sous l'influence des livres » a été enregistrée à l'Université du Québec à Rimouski. Chères auditrices et chers auditeurs, au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Bonjour, je suis Camille Deslauriers. Bienvenue à l'émission « Sous l'influence des livres », le volet rimousquois de Parking Nomade, enregistré à l'Université du Québec à Rimouski. Ce mois-ci à l'émission, dans un premier temps, nous recevons M. André Minot, chercheur et professeur en éthique et en histoire ici à l'UQAR, qui a récemment publié un roman historique intitulé « Le secret de l'Apocalypse, la dernière année du monde » aux éditions Amalthée en France en 2012. Le livre est donc disponible aux éditions Amalthée, A-M-A-L-T-H-E, accent aigu E. Vous trouverez toutes les informations sur le site Internet de la maison d'édition. Dans un deuxième temps, on va enchaîner avec une capsule d'histoire littéraire. Mon collègue Martin Robitaille recevra Mme Catherine Gosselin. Ils vont s'entretenir des romans qui, à l'instar de celui de notre invité d'aujourd'hui, prennent l'une des grandes guerres pour thème. Dans un troisième temps, nous allons reparler avec André Minot. Et suivant notre tradition, et aussi pour rester fidèle à ce qu'indique le titre de notre émission, nous allons aborder ses lectures phares, son rapport à la lecture et l'influence de certains livres ou certains auteurs marquants dans sa démarche d'écrivain. En fin d'émission, nous aurons le plaisir d'entendre un extrait du roman « Le secret de l'Apocalypse » et nous aurons l'honneur d'entendre l'auteur lui-même nous le lire. Alors, nous accueillons aujourd'hui à l'émission M. André Minot. Bonjour André et bienvenue à l'émission.
Bonjour Camille, merci de m'avoir invité.
Ça nous fait plaisir. D'abord André, j'aimerais qu'on parle un peu de votre démarche, hein, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit un chercheur universitaire spécialisé, entre autres, en histoire des idéologies contemporaines qui va glisser vers la fiction et qui va décider d'écrire un roman historique, et plus particulièrement un roman historique pour la jeunesse. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a donné le goût d'écrire de la fiction et pourquoi spécifiquement être allé vers la littérature jeunesse?
Oui, c'est une question intéressante et importante, du reste, l'origine du texte que j'ai écrit. Bon, c'est certain que normalement, je publie dans le domaine de l'histoire ou, mettons, des idées philosophiques en général. Je ne suis pas un littéraire de formation. Mm-hmm. Je suis un dilettante ou un amateur, pourrait-on dire. Mais c'est un vieux rêve que j'ai depuis que très longtemps. Un rêve qui remonte à mon adolescence, en quelque sorte, écrire un roman.
Ah, ben c'est bien.
J'ai toujours eu le désir de le faire. J'ai jamais eu l'occasion, l'opportunité ou le temps de le faire. Mm-hmm. Et puis, à un moment donné, ça a comme débloqué. J'ai eu quelques idées. Puis bon, j'ai mis ça par écrit. J'ai conçu et construit une histoire. Mais ça remonte à ces années. Je me rappelle quand j'étais étudiant ou ce qui serait aujourd'hui le secondaire 3, si on veut. Mm-hmm. C'était le cours classique. J'étais en méthode. On avait fait un roman dans le cours de français.
Ah, oui,
j'avais
déjà,
fait un roman d'une cinquantaine de pages sur un thème qui touchait du reste la Deuxième Guerre mondiale.
Ah, bon.
Puis je m'étais dit à ce moment-là, j'aimerais ça pouvoir faire un roman, mais c'était jamais arrivé pour moi d'avoir le temps et de le faire et ainsi de suite. Alors, ça remonte à ces années-là. Probablement que c'est un roman jeunesse pour cette raison. Là, c'est que je me revois comme adolescent, moi, à 15 ans, et j'aurais aimé toucher un public d'adolescents et d'adolescentes là, qui auraient pu avoir, disons, l'âge que j'avais, moi, quand j'ai pensé écrire un roman. Maintenant, je ne sais pas si c'est vraiment un roman jeunesse tant que ça. Je l'ai naturellement relu. Il y a peut-être un peu... peut-être un peu trop d'idées, si on veut, et passer d'action. Naturellement, un auteur n'est jamais bon juge lui-même de ce qu'il a écrit. Là, le texte qu'on a écrit nous échappe et le sens travaille de lui-même.
Ouais.
Alors, c'est un roman jeunesse, oui, c'était ça dans mon intention, mais c'est un roman qui touche de toute façon plus large, hein, qui touche d'autres lecteurs, un public plus large que les adolescents.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, le thème que vous abordez, peut toucher tous les adultes aussi, parce que ça, vous revisitez dans le fond un grand thème littéraire qui est le thème de la guerre. Hein? Et c'est particulier parce que dans votre roman, du prologue à l'épilogue, on va revisiter ce thème-là en traversant plusieurs époques et en allant sur plusieurs continents, parce qu'on suit des personnages qui vivent à l'époque des Templiers, des conquistadors au 17e siècle en Hollande, en Amérique, puis en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous nous amenez comme ça, à remonter jusqu'à notre époque contemporaine, où la guerre prend une autre forme, hein, soit celle du terrorisme et des attentats de septembre 2001. Donc, qu'est-ce qui vous fascine particulièrement dans ce grand thème littéraire-là, et comment vous vous y êtes pris pour le revisiter d'une façon aussi personnelle?
C'est une question intéressante et bien sûr importante. Le thème de la guerre m'a toujours fasciné, et cela au, disons... bien avant que j'ai pu donner suite à mon projet d'écrire un roman,
oui.
Ça m'a toujours fasciné du point de vue de l'histoire, du point de vue aussi de la philosophie. Ce qui m'a toujours fasciné, c'est le phénomène de cette grande violence, en réalité épouvantablement destructrice, dont sont capables des gens, somme toute, pas méchants du tout, bien ordinaires. Donc, la capacité qu'ont des gens bien corrects, des gens qui sont... distingués, etc., là, qui, à toutes les époques où ils ont vécu, entraient dans les normes, de générer une violence incroyable dans le système, bien sûr, de commandement et de hiérarchisation des rapports humains assez stricts, là, qui ont cours normalement durant les guerres, mais aussi par rapport aux idées qu'ont les gens.
Oui.
Ce qui me fascine et m'intéresse, c'est le rapport entre les idées et, bien sûr, la guerre, c'est-à-dire ce que les gens pensent et la manière dont ils vont se comporter ensuite dans l'histoire et comment ils deviennent, en quelque sorte, prisonniers des idéologies, hein,
oui.
Des systèmes de représentation du réel qu'ils ont, des systèmes de croyances, des systèmes de morale aussi. Tout ce qui... c'est ça qui m'intéresse en quelque sorte, comment les idées des gens vont se traduire dans une pratique, en quelque sorte, souvent de grande violence, et vont justifier cette pratique, en quelque sorte. On fait les guerres, les génocides, les crimes contre l'humanité, tout ça est directement relié à des idées particulières qu'on a, auxquelles on croit, et que les historiens, bien sûr, essaient de décrire, mais que j'ai essayé de faire vivre un peu dans mon roman.
D'accord, merci. Enfin, j'aimerais qu'on aborde aussi la question des personnages qu'on suit dans le roman, des personnages historiques, je pense ici à Hitler, côtoient des personnages mythiques, hein, par exemple les quatre cavaliers, et des personnages purement inventés, je pense au couple d'Éric et de Katrina. Et vous réussissez à tisser un fil conducteur entre tous ces êtres de papier-là, pour emprunter les mots de Jean-Pierre Goldenstein. Sans révéler le punch de votre roman, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs quel lien vous avez tissé entre ces personnages-là?
Oui, c'est le lien, en quelque sorte, bien sûr, comme on vient de le mentionner, là, il va toucher des personnages réels, des personnages qui, dans certains cas, ne sont que mentionnés. Hitler est une figure, naturellement, qui est plus élaborée.
Oui,
là,
plus
personnage aussi mythique et personnage, bien sûr, fictif. Bon, naturellement, la recherche historique supporte le personnage de Hitler tel que je l'ai présenté. Le Hitler est conforme à l'histoire au sens où, naturellement, sa relation avec Frederike van Haarlem est une fiction. C'est ça, le roman. Elle n'a jamais historiquement existé, si on veut. Mais le personnage lui-même est congruent. Il est fidèle à ce qu'Hitler a été historiquement. Donc, naturellement, ce sont plus mais en quelque sorte, mon travail d'historien qui m'a amené à connaître le personnage Hitler. Mais naturellement, ces personnages ou ce personnage interagit avec des personnages, bien sûr, mythiques et fictifs. Globalement, en quelque sorte, il y a deux familles qui sont impliquées à travers le temps de l'histoire dans le roman. Une famille d'origine hollandaise, les Van Haarlem, une famille d'origine espagnole, les De Leon, qui interagissent à travers l'histoire et à travers les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Ce sont donc quatre figures, bien sûr mythiques, qui représentent chacune l'argent, finalement, la cupidité, le pouvoir, le matérialisme et le fanatisme, l'étroitesse d'esprit auxquelles les croyances trop strictes mènent dans certains cas. Et le roman essaie de montrer comment, à travers le temps, ces personnages interagissent, mais aussi comment ces personnages, je parlais tantôt du rapport entre la grande violence des guerres et des génocides et les idées des gens, comment, en quelque sorte, ces personnages sont eux-mêmes pris au piège de leurs propres idées. Dans certains cas, coincés entre leurs idées et leurs passions. Dans d'autres cas, coincés entre des aspects contradictoires de leurs propres idées. J'entrerai pas dans le détail ici parce que ce serait trop long, mais je pourrais illustrer cela pour chacun des personnages du roman.
Oui. Alors, merci beaucoup, André, d'avoir répondu à mes questions sur votre démarche créatrice et sur votre roman « Le secret de l'Apocalypse, la dernière année du monde ». Nous sommes de retour avec André Minot pour le troisième segment de notre émission. Puisqu'on parle, dans votre cas, de littérature jeunesse, j'aimerais peut-être qu'on parle d'abord du jeune André Minot, lecteur. Hein? Quels ont été vos premiers livres fétiches ou vos premiers livres marquants?
OK, c'est sûr que ça remonte à ma jeunesse, tout ça. Bon, j'ai eu mes goûts en littérature que j'avais dans ma jeunesse, que j'ai eu par la suite. Peut-être que les auditeurs trouveront ça un peu étrange parce que je ne suis pas un littéraire de profession, je ne suis pas un professeur de littérature. J'ai eu mes goûts à moi qui n'ont été qu'à moi, en quelque sorte. Mes premiers contacts avec la lecture sont, bien sûr, autour de l'âge de 9 ans, 10 ans, les bandes dessinées, hein, Tintin, Astérix. Dans les textes continus, si on veut, romans structurés, les premiers textes que j'ai lus vers l'âge de 10 ans, 11 ans, c'était les ouvrages de Henri Verne, Bob Moran, que beaucoup de jeunes lisaient à l'époque, qui étaient des romans structurés, écrits du reste en excellent français. Alors, c'était mes lectures quand j'avais 11 ans, 12 ans, jusqu'au début de l'adolescence. J'en ai d'ailleurs un certain nombre chez moi que je garde par nostalgie.
Par nostalgie.
Par nostalgie du passé. C'est certain qu'ensuite, quand je suis arrivé à l'adolescence, l'enseignement qu'on avait au cours classique à l'époque, je me suis intéressé aux grands auteurs de la littérature française surtout. Là, je me suis intéressé à Balzac, à Flaubert, à Maupassant, à Stendhal. Je me suis intéressé à Gide, François Mauriac aussi, même si c'est un auteur aujourd'hui qu'on dirait totalement démodé, Malraux. Naturellement, je me suis intéressé aussi aux auteurs un peu plus philosophiques à mesure que mon adolescence avançait. Bien entendu, Sartre, Camus. Je me suis intéressé aussi à peut-être de la littérature un peu plus du terroir par rapport à mon lieu d'origine à moi. J'ai lu à l'époque et j'ai toujours gardé dans ma bibliothèque depuis les deux ouvrages de Germaine Guévremont, Le Survenant, Marie Didas. Bon, même si personne ne lit plus ces livres-là aujourd'hui
on lui fait lire encore
en littérature,
dans les cours littéraire.
Moi, c'est mon pays, ça. Alors, ça fait partie de mes souvenirs et je garde précieusement dans ma bibliothèque ces volumes.
D'accord. Puis est-ce qu'il y a un roman de la guerre, par exemple, qui aurait été marquant pour si on cherchait des influences?
Oui, il y aurait naturellement, si on parle de romans touchant la guerre, toucherait en réalité plus la Première Guerre mondiale que la Seconde, c'est le roman de Pasternak, Le Docteur Jivago, d'accord, qui est un grand roman de guerre, bien entendu. Bien entendu, il y a La Roue rouge de Solzhenitsyn qui est paru plus tard. Solzhenitsyn est un auteur qui m'a influencé beaucoup, que j'ai aimé beaucoup lire. Je dirais que si on me posait la question d'un auteur préféré que j'aurais eu ou du roman qui aurait été pour moi le plus important, je répondrais Solzhenitsyn, sans aucun doute. Et aussi, dans une autre, même s'il n'y a aucun rapport, j'ajouterais Maupassant. Et ses nouvelles, oui, ce très beau style, les impressions, les émotions, tout ce qui est intérieur, ça n'a rien à voir avec Solzhenitsyn, c'est autre chose. Mais je dirais que cet auteur serait peut-être le complément. Solzhenitsyn, c'est un auteur philosophique, un énorme auteur qui, justement, va traiter de questions philosophiques autour de la grande violence, la révolution bolchevique, etc., en Russie.
Alors, si en contrepartie, on était curieux, parce qu'à tous les mois, je le fais avec mes invités, quelles seraient les œuvres ou les livres qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans la bibliothèque d'André Minot?
C'est une bonne question. Il faudrait d'abord savoir où est ma bibliothèque. Mes livres sont un peu partout. Il y en a chez moi, il y en a dans mon bureau, il y en a dans des caisses. Naturellement, on retrouverait beaucoup de livres en histoire et parce que ma spécialisation de recherche touche l'histoire aujourd'hui. Beaucoup de livres en philosophie parce que ma formation première est en philosophie. Hors de cela, on trouverait de la littérature un peu. On trouverait Le Rouge et le Noir de Stendhal. Mm-hmm. On trouverait Le Père Goriot de Balzac. On trouverait Germaine Guévremont, je l'ai dit tantôt. On trouverait les œuvres de Solzhenitsyn. On trouverait de la poésie aussi. J'aimais beaucoup les poètes quand j'étais adolescent, c'est-à-dire Desnos, Éluard, Aragon et autres auteurs du début du 20e siècle. Naturellement, on trouverait des livres sur l'art. J'aime beaucoup la peinture. Mm-hmm. Alors, j'ai plusieurs ouvrages sur les impressionnistes. J'ai des ouvrages sur la musique, parce que j'aime beaucoup la musique aussi.
C'est très
éclectique. Donc, il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas directement reliées à mes activités professionnelles, mais qui sont dans le café, qui font ma bibliothèque.
D'accord. Merci beaucoup, André. Écoutons maintenant, si vous le voulez bien, André Minot nous lire un extrait de son roman « Le secret de l'Apocalypse ».
Lundi, le 10 septembre, vers 11h du matin, Wilhelm est de retour chez lui après sa promenade habituelle. Il ouvre sa boîte aux lettres, prend son courrier et se dirige vers l'ascenseur. Sur cette enveloppe, de vieilles adresses ont été rayées jusqu'à ce que le bureau de poste y colle une étiquette comportant les données exactes. Mais l'entête est bizarre. On y voit un aigle, une croix gammée et l'inscription « Oberkommando des Heeres » au commandement de l'armée. La lettre a été estampillée à Tsossen en Allemagne en avril 1945. Intrigué, Wilhelm ouvre l'enveloppe pour en retirer les feuillets pliés d'une longue lettre en allemand qui lui est adressée. La lettre dit « Te rappelles-tu ces Juifs dont les visages ont été effacés de l'histoire par l'histoire? Peux-tu revoir dans ta tête les Juifs de Babillard? Tu étais là, parmi les hommes qui ont protégé le périmètre du site d'exécution. » Tu pouvais observer ces femmes et ces enfants qui marchaient vers leur ultime destin. Te rappelles-tu ces visages? Ils avaient des rêves et des espoirs. Ils avaient des projets pour réaliser leur vie dépourvue d'avenir. Penses-tu qu'ils voulaient mourir? Certains hurlaient leur effroi et leur désespoir. Leur voix pénètre-t-elle tes murs maintenant? Qu'en est-il des voix et des visages de Stalingrad? Tu ne pouvais peut-être pas entendre ces voix à l'époque, à cause du discours assourdissant des canons. Tu ne pouvais peut-être pas voir ces visages dans l'obscurité des ruines ou dans l'éclat aveuglant des explosions. Maintenant, en toi-même, tu peux revoir les visages de ces soldats ennemis. Tu peux entendre leurs cris désespérés quand ils étaient mitraillés efficacement l'un après l'autre jusqu'au dernier. Mais c'étaient des communistes après tout, une perte infime pour l'histoire. De plus, ils étaient capables de représailles. Mais te rappelles-tu ce jeune garçon pendu à un lampadaire? Il faut présumer que c'était un partisan. Peux-tu revoir l'étrange lumière dans ses yeux quand la corde lui a serré le cou? En passant, qui a placé la corde autour de son cou? En réalité, je te dis la vérité, les quatre cavaliers iront à New York et toi, tu es un pont entre le royaume de la mort et le royaume de la mort. Quand tu liras cette lettre, le quatrième cavalier en personne viendra peu de temps après et le futur reculera dans le passé. Le document porte une signature, la conscience inversée de l'armée, estampillée par le sceau officiel de l'OKH.
Je reprends le micro pour faire mes remerciements. Merci beaucoup à notre écrivain invité, André Minot. J'aimerais également remercier mes collaborateurs, qui sont parfois aussi mes co-animateurs, Claude Lacharité, Martin Robitaille et Catherine Gosselin. Merci également à Jean-Luc Théberge, à la technique. Je vous rappelle que l'émission « Sous l'influence des livres » a été enregistrée à l'Université du Québec à Rimouski. Chères auditrices et chers auditeurs, au plaisir de vous retrouver le mois prochain.